On va revenir sur cette affaire à caractère antisémite qui implique l'université de Lyon 2 en France, avec toujours le même professeur, l'historien médiéviste Julien Théry, qui, après avoir suscité l'indignation en ayant publié une liste entre guillemets de génocidaires juifs à boycotter, il est une nouvelle fois dans l'œil du cyclone en raison d'une caricature antisémite postée au mois de janvier 2024, où on voit un homme portant une kippa et une étoile jaune derrière une femme qui porte un drapeau palestinien. L'homme coiffé d'une kippa essaye de lui voler le contenu de son sac à main et d'affirmer « Dieu m'a promis ce portefeuille », le tout en anglais, s'il vous plaît. Pour parler de cette nouvelle affaire, on a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec Fabrice Ballanche, le professeur et géographe français, qui est au micro de Jonathan Serrero.
Fabrice Ballanche, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai une première question toute simple. Que fait la direction de l'université? Parce que là, on a affaire véritablement à un récidiviste.
Oui, la direction de l'université, en fait, elle botte en touche, hein, tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le premier signalement avec la liste des 20 personnes à boycotter absolument parce que considérées comme génocidaires par ce professeur, la présidente de l'université l'a convoqué et lui a signifié qu'elle faisait donc un signalement au procureur de la République au nom de l'article 40, puisque dans la loi française, lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous constatez dans votre équipe, autour de vous, un délit, vous êtes dans l'obligation de le signaler. Donc, elle ne fait qu'appliquer la loi, parce que si elle ne le signalait pas au procureur, elle serait en faute et on pourrait l'attaquer justement pour entrave à la justice. Ce qu'elle aurait dû faire dans le même temps, c'est réunir une commission discipline, la commission discipline interne à l'université, pour que ce professeur s'explique devant cette commission discipline. Et là, c'est beaucoup plus rapide, parce que le procureur de la République, le temps qu'il y ait une enquête, ça va durer des mois, et elle espère ainsi que l'affaire soit enterrée. Une commission discipline, c'est beaucoup plus rapide. Le petit problème, c'est que les commissions discipline internes aux universités, elles sont composées par les membres du conseil d'administration de l'université, les membres élus par le conseil d'administration. Or, le conseil d'administration de Lyon 2 est tenu par la CGT, par Sud Éducation, par des syndicats, par l'UNEF, des syndicats de gauche et d'extrême gauche, qui sont en fait favorables aux thèses pro-palestiniennes, anti-israéliennes que propage Monsieur Théry. Il faut quand même rappeler que en janvier 2024, le conseil d'administration de l'université Lyon 2 a voté une motion interdisant les relations avec les universités israéliennes, avec l'appui de la présidente de l'époque. Bon. La présidente actuelle était vice-présidente, mais elle soutenait également ces motions anti-israéliennes. Donc s'il passe devant la commission discipline de l'université, il va s'en sortir avec les acclamations du jury. Il n'aura aucune sanction, bien au contraire. Et là, on va se rendre compte du mal profond qu'il y a en fait au sein de cette université. C'est pour ça qu'elle botte en touche et qu'elle en appelle au procureur de la République.
C'est très grave. On sourit, mais c'est très grave, car ce que vous décrivez en fait, c'est qu'on a une direction de cette université qui est sous influence en fait.
Oui, totalement, parce que depuis 10 ans, cette université est gérée par une direction d'extrême gauche, très liée à la France insoumise, qui laisse prospérer donc des groupes islamistes. On l'a vu en avril dernier. Lorsque mon cours était interrompu parce que j'ai dénoncé la tenue des iftars de rupture du jeûne au sein de l'université. Là encore, la présidente dit « mais je n'ai pas autorisé cette rupture du jeûne ». Attendez, elle était dans l'obligation de l'interdire par la loi. Mais en même temps, elle avait proposé à ses étudiants qui voulaient faire la rupture du jeûne d'appeler ça un repas partagé et elle passait l'éponge. Tout comme lorsqu'ils ont bloqué l'université le lendemain en la traitant d'islamophobe, eh bien, elle leur a proposé de rédiger ensemble une charte de la laïcité. Je suis désolé, en France, il y a la loi de 1905, il n'y a pas besoin de rédiger une charte de la laïcité. Elle est déjà là et elle s'applique dans les universités publiques. Donc,
comment Fabrice vous expliquer que cette direction, que tout le monde au sein, tout le corps professoral au sein de cette université ait baissé les bras face au radicalisme, aux radicaux de gauche, à l'extrême gauche et à cette mouvance islamiste aussi?
Bon, parce que vous avez donc une complaisance donc de la direction de l'université par rapport à ces mouvements, et ensuite le reste du corps enseignant se tait par lâcheté, mais aussi par peur, parce que votre promotion aujourd'hui pour passer de maître de conférence, ce qui est mon cas, à professeur, pour obtenir un avancement de grade, enfin donc un meilleur salaire, ça dépend essentiellement de la direction de l'université. Donc, si vous vous opposez à cette direction d'université, vous pouvez voir votre carrière mise en sommeil, vous pouvez voir les financements pour votre laboratoire de recherche oubliés, vous pouvez voir les financements pour votre master, pour votre diplôme, là aussi sabrés, parce que c'est ce qui se produit. Et j'ai de nombreux collègues qui se taisent parce que ils ont peur des répercussions sur leur carrière.
Vous dénoncez le deux poids deux mesures par rapport à ce qui vous est arrivé, Fabrice?
Ah ben c'est tout à fait clair. Par exemple, aujourd'hui, la dernière nouvelle, c'est que la CGT, éducation, donc soutient ce professeur dénonçant une cabale contre lui, un macartisme à la française. Le même syndicat, au printemps, m'a accablé. Alors, ce syndicat aujourd'hui demande à la présidente de l'université de protéger un membre du corps enseignant, mais en ce qui me concerne, le même syndicat m'a accablé avec des communiqués diffamatoires.
Certains journalistes, Jean-Michel Apathy, pour ne pas le nommer, qualifient cette caricature de simple moquerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez?
Apathy s'est largement décrédibilisé ces dernières années. Il n'est absolument plus, c'est plus quelqu'un qu'on considère comme un journaliste aujourd'hui.
Dernière question, face à ce que l'on peut appeler presque une prise d'otage du monde universitaire par des éléments radicaux d'extrême gauche et proches des mouvances islamistes, les pouvoirs publics restent totalement silencieux. Est-ce
Oh,
que vous le
total.
regrettez et comment l'expliquer?
Totalement, pas tout à fait. Alors, on a le ministre de l'Enseignement supérieur qui tout de même met des limites. Hein. On l'a vu quand même interdire le colloque Europe-Palestine au Collège de France qui était organisé par le CAREP, un centre de recherche financé par le Qatar. On l'a vu quand même prendre position sur cette affaire. Mais il est vrai qu'ils y vont doucement. D'une part, les universités sont autonomes, donc aujourd'hui, ils ont moins de moyens pour intervenir dans ces universités qui ne sont plus gérées directement par le rectorat, par l'État. Il faudrait les mettre en tutelle après une procédure, mais ça, ils n'osent pas le faire, parce qu'ils ont peur, évidemment, que ces mêmes syndicats de gauche et d'extrême gauche mobilisent et qu'ils se retrouvent avec 1 million d'étudiants dans la rue. Vous savez, la situation politique en France aujourd'hui est quand même assez instable. Et par conséquent, on a un gouvernement en France qui fait profil bas. L'objectif, c'est de faire passer le budget. Et donc, on va pas se mettre à dos, justement, cette gauche dont on a besoin, pour faire passer le budget.
On laisse faire et on ne fait rien.
On laisse faire, on ne fait rien, parce que nous avons un gouvernement qui est extrêmement fragile. Et il n'a pas envie de remuer la fourmilière que représente l'université. Et puis, je ne sais pas si il a forcément bien pris la mesure de ce qui se passe dans les universités, en particulier les sciences humaines et sociales, considérant évidemment que les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus important pour la nation. Finalement, la littérature, la sociologie, tout ça. Abandonnons-les à l'extrême gauche, laissons-leur une poire pour la soif. Seulement, le petit problème, c'est que ces facultés de sciences humaines et sociales, c'est la formation des professeurs des écoles, des professeurs du secondaire, et ensuite, on a des gens qui sont complètement gangrénés par ces idéologies, qui vont ensuite transmettre ce discours dans le primaire et dans le secondaire.
Ou même la future classe politique pour parler de Sciences Po.
Oui, alors là, c'est lorsque le gouvernement a réagi, c'est lorsqu'il s'est aperçu que des écoles qui forment les élites, comme Sciences Po Paris ou l'École normale supérieure, étaient elles aussi gangrénée par ces idéologies. Donc, ils ont nommé un directeur à poigne à Sciences Po Paris pour espérer ramener le calme. Mais le problème, c'est que depuis 20 ans, cette mouvance d'extrême gauche, en fait, règne sur la recherche, règne sur les recrutements des enseignants-chercheurs, sur les promotions de ces enseignants-chercheurs. Donc, depuis 20 ans, on a un corps professoral, un corps de chercheurs qui a été modelé par l'extrême gauche. Et donc, aujourd'hui, même si vous changez les directions, vous avez un corps enseignant qui, je ne vais pas dire dans sa majorité, mais en tout cas, qui a été modelé par ces idéologies islamo-gauchistes.
Brice Ballon, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.